Merci. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter encore une fois. Plusieurs d'entre vous, vous le connaissez, mon frère Hugo. Hugo est pasteur implanteur à l'église de Rivière-du-Loup. Hugo, c'est un fils de l'église de l'Espoir. Hugo et moi, on a grandi dans l'église ici. Il s'est converti à peu près 2 ans après moi, hein, Hugo, autour de 18 ans. Il a donné sa vie à Christ, même si on venait tous les deux d'une famille évangélique, tout ça. On a pris la décision de marcher avec Christ plus tard dans notre vie, tous les deux. Et Dieu a progressivement appelé Hugo au ministère pastoral. Il était professeur de mathématiques. Et puis, il a eu la conviction dans son cœur de faire le saut, de se former pour le ministère, d'être formé, tout ça. Il a commencé à servir avec nous. La majorité, vous avez connu Hugo alors qu'il était responsable de l'évangélisation, le rôle que Alexandre Marquis remplit maintenant. Et il y a 6 ans, avec une conviction qui venait de Dieu. On a prié avec lui. Hugo nous a partagé le fardeau qu'il avait sur son cœur, sur le cœur de Lynn, de partir, d'aller en région et d'implanter une église dans la région de Rivière-du-Loup. Et donc, cette église est en implantation. C'est une belle assemblée, entre 60 et 80 personnes environ. C'est déjà une belle bénédiction. Et maintenant, l'église entre dans une nouvelle phase, c'est-à-dire qu'ils sont dans le processus d'acquisition d'un bâtiment. Et un bâtiment qui va demander beaucoup, beaucoup de rénovation, mais qui a vraiment un beau potentiel, qui est bien situé. Je l'ai visité à plusieurs reprises. Et vraiment, c'est une belle place. Ils sont au cœur de la ville. Ils vont être un endroit où ils vont être visibles. Ils vont pouvoir être connus. Et il y a tout un témoignage à rebâtir pour une assemblée évangélique là-bas, Rivière-du-Loup. Le témoignage n'est pas très fort et ça a été un témoignage qui était chambranlant à plusieurs reprises. Donc, ils ont des belles opportunités pour annoncer l'Évangile là-bas. Et ils entrent dans cette phase-là. Alors, je vous demande de prier pour Hugo, de prier pour l'Église aussi. Ceux qui ont plusieurs années de vie chrétienne et qui ont vécu les moments où une Église, comme nous, on l'a fait ici, on a fait l'acquisition. Si vous avez vécu ces périodes-là, ces phases-là dans la croissance d'une Église où on va soit acheter un terrain, faire une construction, acheter un bâtiment, aller faire des rénovations, ce sont des périodes extrêmement demandantes pour une Église. Ce sont des périodes très demandantes pour le leadership, pour les dirigeants, les responsables de l'Église, mais ce sont des périodes demandantes pour toute l'Assemblée. Dans ce cas-là, c'est vraiment des grosses rénovations qu'ils vont avoir à faire. Hugo va vous parler un peu plus des besoins et de ce qu'on peut faire, mais moi, j'avais à cœur de vous demander de prier. Priez pour que Dieu préserve l'Église. Vous savez comment est-ce que c'est. On est tous des hommes. Là où il y a des hommes, il y a de l'hommerie. Et le diable est généralement pas loin aussi. Donc, ça fait des fois une bonne chimie. Et il y a des moments comme ça où il y a des décisions délicates à prendre. Il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée dans les travaux. Jean-Chantal a lancé quelque chose. Il vient de diriger tous nos travaux ici pour le chantier Prof Dino. Mais il y a de l'énergie qui est consommée là. Et comme on dit, le diable est souvent dans les détails, mais c'est ça. Il veille, il rôde, il cherche quelqu'un, une proie à saisir pour semer la zizanie dans l'Église. Alors, c'est une belle assemblée, qui a une belle unité, qui va bien. Priez pour que Dieu préserve l'Église, que Dieu préserve le conseil, les responsables, que Dieu préserve Hugo aussi à travers le processus. Hugo va venir nous apporter un message sur... je vais vous laisser vous présenter le sujet, mais depuis quelque temps, lorsque j'invite des prédicateurs, j'essaie de choisir des sujets dans lesquels je crois qu'ils ont aussi une force personnelle dans leur caractère, dans leur don spirituel. Et donc, le sujet qu'Hugo va nous apporter, j'avais à cœur qu'il l'apporte. C'est moi qui lui ai demandé. Lui a choisi le texte où il allait nous conduire. Alors, soyez attentifs à ce que Dieu veut nous dire ce matin. Merci.
Bonjour à tous. Correct, François? Okay. Vous savez pas, mais pour moi, ces petites choses-là, c'est toujours une façon de briser la glace, tu sais. Un genre d'imprévu, là. Oh, je me mets un peu à l'aise. Puis... Alors, je vous aime. Je vous aime beaucoup dans le Seigneur, même ceux que je connais pas. Alors, peut-être que vous allez être mon voisin au ciel. Alors, je pense que je suis un bon voisin, mais quand même, des fois, je peux être énergique de bonne heure le samedi matin. Alors, au ciel, là, peut-être que vous allez me trouver fatigant des fois le samedi matin. Mais je vous aime dans le Seigneur. C'est toujours un plaisir, une joie pour nous de venir vous voir. Alors, comme je dis souvent aux gens, pour moi, ici, c'est la maison. Alors, des fois, je me dis, ben si jamais tout allait mal dans ma vie, tout s'effondrait, ben j'ai ma femme, j'ai mes enfants. J'ai l'église de Longueuil. je viendrai me réfugier ici comme un genre d'itinérant spirituel, tu sais, puis si jamais tout va mal, j'ai toujours l'Église de Longueuil, le Seigneur évidemment par-dessus tout, mais une famille ici qui, je sais, éprouve des sentiments, de l'affection pour nous. Alors, je veux remercier le groupe de louanges qui nous a vraiment conduits presque au troisième ciel ce matin. Alors, des fois, dans ces moments-là, on se rapproche vraiment du troisième ciel. Et merci pour aussi, Yannick, la présentation ce matin sur le The Gospel Coalition. Alors, moi, je suis toujours édifié puis encouragé, puis ça a un impact dans ma vie, l'orientation puis la centralité que l'Évangile occupe à la place de Longueuil. Pour moi, c'est une église forte, l'Église de Longueuil. Puis ce que l'Église de Longueuil fait, ça a un impact dans ma vie. Alors, de voir l'Église de Longueuil qui est centrée sur l'Évangile, de voir Yannick qui est l'initiateur de la conférence Sola, pour moi, c'est un grand encouragement, une grande source d'édification. Les chants ce matin, centrés sur l'Évangile, centrés sur Christ. Alors, je veux vous remercier l'équipe de louanges de Jonathan puis tous ceux qui ont contribué vraiment. Vous m'avez édifié ce matin. Alors, je voulais vous donner juste quelques nouvelles. Je suis pas tellement bon dans les photos puis ces choses-là. Un jour, peut-être, je serai meilleur, mais j'aurai peut-être un Oscar ou quelqu'un d'autre qui va travailler sur des PowerPoints qui va faire ça pour moi. Mais en tout cas, alors, je voulais vous donner quelques nouvelles de Rivière-du-Loup. Dieu travaille en profondeur. Je dirais que depuis un an environ, il y a un travail d'approfondissement dans l'Église de la Rivière. Alors, en termes numériques, on est comme un petit peu plateau. Il y a eu des départs, des ajouts, on se maintient. Je pense que Dieu est en train de consolider la fondation. Alors, je ne sais pas, je l'ai partagé l'autre fois, mais on a plus de 10% de l'Église qui est impliquée dans un programme SEMBEC. Alors, je me vante un peu de ça partout. Là, on n'est pas nombreux, fait que c'est pas trop facile. C'est pas trop difficile à atteindre, mais quand même, 8 personnes sont inscrites dans un programme officiel de SEMBEC. Donc, la formation théologique est en train de prendre beaucoup d'espace dans notre Église. Puis, je bénis Dieu pour ça. On a le cours des actes, le cours qui est donné par Build, que SEMBEC s'est approprié là avec autorisation. Un cours sur les actes qui parle d'expansion de l'Église. C'est merveilleux. On a une quinzaine, trois personnes viennent de Rimouski pour assister avec nous. Puis, on a commencé il y a environ un mois, le mercredi soir, à se mettre en petit groupe pour prier. Alors, j'ai l'impression de revivre la rue Lafayette quand on allait dans les classes en bas avec Richard Roule. Tu entends prier partout. Moi, nous, on n'a pas de classe encore, fait qu'on prie tout, on va dans des coins. Là. Ça prie, là, c'est vraiment beau de voir ce que Dieu est en train de faire. C'est comme une nouvelle dimension qui se développe dans notre Église. Plusieurs personnes qui priaient jamais en public se mettent à prier dans un groupe de 4, 5, 6 personnes. Là. Vous vivez ça dans les petits groupes. Alors, l'Église n'est pas rendue au point de démarrer des petits groupes, mais la vie de prière comme ça en sous-groupe après la prédication du mercredi soir, les chants. Puis, alors, j'ai l'impression de voir un peu acte 1, acte 2, là, l'Église qui était réunie, puis qui dans la chambre haute qui priait. Et on attend des belles choses de la part du Seigneur. Maintenant, on a de beaux défis encore devant nous. Alors, comme Yannick a dit, c'est un gros morceau. J'ai hâte comme de un petit peu là, tourner la grosse page. De tourner la grosse page de ça. J'ai l'impression que depuis deux ans et demi, je parle juste de bâtiment, mais en tout cas, ça s'en vient. Alors, c'est un super beau projet. Je vous ai parlé, j'ai montré des photos une autre fois. Peut-être si vous voulez prier, les défis qui sont encore devant nous, je l'ai marqué en bas. Donc, on a un défi encore de 38 000. C'est absolument incroyable. C'est un défi de 450 000. On prévoit avoir une hypothèque de 100 000. Donc, il y a quand même un 350 000 qui doit tomber du ciel. Alors là, il en reste juste 38 sur le 350. Ça veut dire qu'il y a 312 000 qui sont tombés du ciel depuis un an et demi. C'est absolument incroyable. Alors, priez pour le 38 000 manquant encore, s'il vous plaît. On prie aussi pour que Dieu envoie des ouvriers. Alors ça, c'est un petit peu un appel à vous ce matin. S'il y en a qui ont à cœur, Danny m'a dit qu'il était prêt à coordonner, au moins prendre les noms, puis rassembler le monde, puis envoyer une équipe une fois, deux fois, une semaine, deux semaines, trois jours, quatre jours, peu importe, à Rivière-du-Loup, mois de juillet, mois d'août. On devrait débuter lundi le 4 juillet après la fête du Canada. Alors, si vous êtes un petit peu manuel, alors venez si vous ne l'êtes pas du tout, puis vous pouvez juste mettre vos mains sur une feuille de gyp, emmener des bouts de bois, on va l'apprécier. Alors, c'est un gros défi pour nous, la rénovation puis la construction. Donc, allez voir Danny Gosselin pour ça. Bruno m'a lancé une idée il y a plusieurs mois. Je l'ai encore en tête, Bruno, alors j'ai des attentes envers toi. Mais je sais que c'est volontaire puis c'est de bon cœur si tu peux venir puis d'autres peuvent venir, gloire à Dieu. On a eu une idée dernièrement où on se demandait comment héberger tous ces bénévoles qui vont venir. On a des gens là, de Alma, Saint-Georges, Québec, l'Ontario, Nouveau-Brunswick qui veulent venir nous aider dans les travaux manuels. Puis on se disait où on va les héberger. On a des maisons, mais des fois les gens aime être près du chantier. Puis la plupart des gens qui peuvent héberger dans notre église sont à 25 minutes, une demi-heure vraiment du lieu de rassemblement là, sur lequel on va travailler. Alors, on vous demande si vous avez une tente roulotte, une roulotte. Puis cet été, vous dites, ben Seigneur, peut-être que vous n'avez jamais pensé faire ça. Je t'offre ma roulotte cet été, Seigneur. Alors, je la prête pour un mois, deux mois à l'église La Rivière pour que les travailleurs puissent dormir sur place. Puis à gagner un petit peu de temps dans les travaux, puis avoir la communion ensemble le soir, tous les travailleurs. Alors, priez pour ça, c'est trois sujets de prière, puis en même temps, trois appels, si vous pouvez, en quelque sorte, contribuer de façon matérielle, on va l'apprécier. Alors, si vous avez d'autres questions, vous pourrez venir me voir par la suite. Alors, ce que j'avais à cœur de vous présenter ce matin... C'est moi je reçois les annonces de Oscar à toutes les semaines avec ces slides là, ces PDF là, moi on a mis à chaque fois c'est un défi, je dis vraiment ils sont inventifs les gars Yannick puis Oscar puis je sais pas qui d'autre là, mais je dis, alors qu'est-ce que je peux trouver comme titre qui est accrocheur, essayer de garder le niveau là de performance en termes de titre puis d'éléments punchés là. Ben, j'ai appelé ça l'Église une manufacture spirituelle. Je sais pas si vous, ça vous excite, mais moi, je trouvais ça excitant. Alors, moi, ça m'excitait. Alors, le titre, l'Église une manufacture spirituelle. Jean Calvin a dit un jour, on peut voir que l'esprit de l'homme est une boutique perpétuelle et de tout temps pour forger des idoles. Je répète, on peut voir que l'esprit de l'homme est une boutique perpétuelle et de tout temps pour forger des idoles. En anglais, plusieurs prédicateurs ont récupéré cette citation-là puis ont parlé de « idol factory ». Le cœur humain est une fabrique d'idoles. Depuis la chute d'Adam et Ève, le cœur humain est corrompu. L'être humain a été créé à l'image de Dieu, mais en raison du péché et de la mort spirituelle, nous avons été séparés, Romains 3, 23, séparés de la gloire de Dieu, séparés de cette image pure et parfaite de Dieu. L'image de Dieu est altérée en nous. On doit l'avouer, notre cœur est pervers. Au lieu d'adorer Dieu, comme Paul nous dit dans Romains, on adore et on sert la créature au lieu du Créateur. Le péché a eu pour effet de nous détourner de notre vocation. L'être humain a été créé avec une grande vocation et le péché a eu pour effet de nous détourner de notre vocation. J'appelle ça une distorsion cardiaque spirituelle. Notre cœur est tordu. Et maintenant, la poursuite de chacune de nos vies au quotidien en tant qu'être humain sans Christ est une poursuite qui est complètement détournée de notre appel, de notre vocation initiale. C'est possible même que comme chrétien, puis je pense que ça nous arrive tous par moments, on devient un chrétien errant. Tout le monde sait c'est quoi un chien errant? Alors comme chrétien, ça nous arrive d'être des chrétiens errants. Un chrétien qui semble avoir perdu sa nouvelle vocation. Augustin a appelé ce phénomène-là l'adultère, l'âme adultère, excusez-moi. Et je vous lis ce que Augustin a écrit. Dans son deuxième livre, chapitre 6, section 14, les confessions. Ainsi, l'âme devient adultère lorsque détournée de vous en parlant à Dieu. Ainsi, l'âme devient adultère lorsque détournée de vous, elle cherche hors de vous ce qu'elle ne trouve pur et sans mélange qu'en revenant à vous. Et peut-être que c'est ton cas ce matin, je peux dire que c'est le mien occasionnellement où j'ai une âme adultère. Adultère, cherche mon plaisir dans des choses autres que Dieu, mon plaisir vital, fondamental. Ma vocation est perdue et je suis malheureux. Et peut-être que tu es malheureux ce matin. Peut-être que la vie chrétienne n'est pas ce que tu t'attendais à ce qu'elle soit. Eh bien, j'aimerais te proposer ce matin que tu es peut-être un chrétien errant. Tu es peut-être un chrétien errant. Comme Augustin dit, une âme adultère. Peut-être que ce qui meuble le plus grand objet de tes passions, c'est pas le Seigneur. C'est pas les choses de Dieu. Mais gloire à Dieu, Christ est venu rétablir cet ordre. Christ est venu nous redonner cette vocation première. Christ est venu rétablir ces choses. Et si tu appartiens à Christ, tu as tout le potentiel en toi par la grâce de Dieu, avec Christ qui vit en toi pour retrouver ta vocation initiale et faire de ta vie chrétienne une expérience absolument sublime et exaltante. Cette vocation est une vocation à comprendre et à affermir. Et le passage que je vous propose ce matin, qui est un peu plus long que ce que j'avais envoyé à Oscar initialement, c'est un passage dans lequel Pierre nous explique et désire ardemment nous affermir dans cette vocation. Nous affermir dans cette vocation. Dans sa deuxième lettre, on va aller dans la première ce matin, mais dans sa deuxième lettre, Paul exhorte les chrétiens en disant, au chapitre 1, verset 10, « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » Et si tu as connu Christ comme moi, si tu as goûté que le Seigneur est bon, tu souhaites ardemment vivre tous les jours une vie bien solide, bien enracinée, bien fondée sur le Seigneur et avoir une expérience chrétienne, même dans la douleur, absolument sublime et exaltante. Eh bien, Pierre nous dit dans sa deuxième lettre, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Pierre nous invite à comprendre la raison pour laquelle on existe, à approfondir cette réalité, à l'affermir dans nos vies. Et Pierre d'ajouter, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. J'aimerais vous demander ce matin à main levée, qui aimerait ne jamais broncher dans le Seigneur ici? Levez votre main s'il vous plaît. Qui aimerait ne jamais broncher dans le Seigneur? Merci. Je pense que la grande majorité, c'est votre désir. Eh bien, Pierre, il dit, tu sais ce que tu as à faire, tu vas affermir ta vocation et ton élection. L'appel que Dieu a mis sur ta vie, tu vas l'affermir. Et quand tu vas faire cela, tu vas être de plus en plus stable spirituellement et tu vas avoir une expérience quotidienne, chrétienne, sublime et exaltante. Prions ensemble. Seigneur, on est devant toi ce matin avec cette réalité. Cette réalité que Christ est venu initier le rétablissement de toutes choses. Ce qu'Adam est venu tordre, Christ est venu le rétablir. Et Seigneur Jésus, ce matin, comme on le chantait tout à l'heure, on est vraiment devant toi ce matin. On est sous ton regard, rempli de ton esprit qui agit en nous, qui produit la vie de Dieu en nous, qui est en train de former Christ en nous. On est devant toi ce matin. Et Seigneur, le cri de notre cœur et notre prière profonde, c'est Seigneur, viens affermir ma vocation et mon élection. Viens affermir, cristalliser, cimenter, rendre inébranlable ma vocation et mon élection afin que je ne bronche jamais, que je vive la vie à laquelle tu m'appelles et que mon expérience chrétienne soit au quotidien, pas juste le dimanche matin ou dans une retraite spirituelle annuelle, mais tous les jours, une expérience absolument sublime et exaltante. Alors fais cette œuvre par ton esprit dans nos cœurs et dans nos vies ce matin. Amen. Je vous invite à tourner dans la première lettre de Pierre avec moi, s'il vous plaît. Alors je vais vous proposer ce matin, peut-être que vous êtes familier avec ça, donc un style homilétique, je ne dirais pas original, là, mais j'espère que ça va être efficace dans vos vies par la grâce de Dieu, mais une lecture commentée. Alors, j'avais envoyé 1 Pierre 2, 1 à 11 comme référence, puis finalement, on va faire 1 Pierre 1, 1 à 2, 12. Alors, j'en ai ajouté un à la fin, puis j'ai ajouté un chapitre en plus. Alors, ça se veut plutôt une lecture commentée. Je vous invite à avoir vos Bibles constamment sous les yeux afin de profiter au maximum de ce temps d'instruction chrétienne. Alors, trois choses que j'aimerais voir avec vous à travers ces beaux versets. c'est premièrement que Dieu s'est constitué un peuple nouveau. Premièrement, chapitre 1, versets 1 à 12. Deuxièmement, que Dieu nous appelle à vivre une vie nouvelle. Et troisièmement, que ce peuple nouveau célèbre un culte nouveau, que j'ai vulgarisé en disant une manufacture spirituelle, une nouvelle vocation, nouveau culte, nouvelle vocation. 1 Pierre 1:1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Dieu s'est créé un nouveau peuple. Dieu en est l'initiateur. C'est Dieu qui a pris l'initiative de créer ce peuple nouveau. J'aime le verset 2 qui est tellement riche en contenu théologique, mais tellement concis en termes de nombre de mots, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Et je ne sais pas quelle est ta position, il y en a qui ont parlé tout à l'heure de théologie réformée, mais j'espère que tu as compris déjà que Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. Avant même qu'Abraham existe, qu'Israël soit constitué de façon nationale en sortant d'Égypte particulièrement, Dieu t'avait déjà choisi. Jésus-Christ, son Église ne sont pas un plan B. Ce n'est pas une roue de secours. C'est le plan arrêté, le dessein arrêté de Dieu. Et avant même que l'univers existe, Dieu t'avait déjà choisi, Dieu t'avait déjà prédestiné. Dieu est l'initiateur. On n'a aucun mérite là-dedans. Et si tu peux dire ce matin, Seigneur, tu chantais, puis tu disais, Seigneur, je suis tellement reconnaissant de faire partie de ton peuple, sache comme je dois le savoir qu'on n'a aucun mérite dans ça. Dieu est le seul initiateur, élu selon la préscience de Dieu le Père. Et Pierre ajoute, par la sanctification de l'Esprit. Et je trouve ça ingénieux de la part de Pierre, et je trouve qu'il y a une perle dans ce passage-là sur laquelle j'ai passé rapidement pendant longtemps. Mais ici, Pierre semble nous donner une séquence par laquelle Dieu agit et opère le salut d'un individu, d'une personne. Dieu choisit depuis les temps éternels et le Saint-Esprit vient œuvrer. « Ouais, mais Hugo, c'est moi qui ai cru, j'ai dit oui, un chrétien m'a évangélisé, j'ai dit oui. » C'est vrai que tu as dit oui, mais sache que le Saint-Esprit en coulisses, sans même que tu le saches, bien souvent, est en train d'œuvrer et d'agir sur ton cœur, d'exercer une pression spirituelle sur ton cœur. L'Esprit est venu agir dans ta vie avant même que tu donnes ta vie à Christ puis que tu sois né nouveau, né de l'Esprit. L'Esprit vient travailler et il vient te parler de Jésus, il vient t'emmener au Sauveur en croix. Par la sanctification de l'Esprit. Avant même que tu t'aies donné ta vie au Seigneur, je ne sais pas si tu as une date précise, mais avant même cette date-là, le Saint-Esprit était à l'œuvre, puis il est en train de te sanctifier. Il était en train de nettoyer ton cœur, ton esprit, puis il est en train de t'emmener au pied de la croix. Et le verset 2 poursuit, « Afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. » L'œuvre de l'Esprit, c'est de m'emmener à l'obéissance. Et j'aime cette expression, la conversion, c'est pas juste un élan émotionnel. C'est pas juste une adhésion intellectuelle. J'ai compris des choses sur Jésus. Oui, je crois qu'il est mort pour moi, puis oui, je dis oui, il y a de ça. Mais la conversion, c'est une question de cœur qui fait appel au plus profond de ton être, à ta volonté, l'obéissance de la foi, et qu'il obéisse et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et tous ceux qui ont vécu une conversion authentique, si même c'était en tant qu'enfant, tu as baissé les armes, tu as levé le drapeau blanc, puis tu as dit, Seigneur, c'est fini ma vie sans toi. Et maintenant, c'est toi, le capitaine de mon âme, le Seigneur de ma vie, celui qui conduit ma destinée. Tu t'es rendu, tu as rendu les armes. Dieu est venu conquérir ton cœur. Et si ce matin, tu n'as pas encore répondu à l'appel de la croix, j'espère et je prie que Dieu est en train de conquérir ton cœur ce matin. J'espère que ça te démange ce matin, que tu es tellement inconfortable en toi-même que tu es à veille de céder. Tu vas bientôt rendre les armes. Et c'est ma prière que ce matin, tu rendes les armes. Que tu rendes les armes. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, littéralement fait renaître. Moi, j'aime l'expression, je ne sais pas si vous aimez un peu l'histoire, mais il y a des mots dans l'histoire, puis je ne saisis pas tous les aspects de ces mouvements-là ou de ces événements-là historiques, mais le nom « Renaissance » m'a toujours excité. La Renaissance, l'époque de la Renaissance, un peu en parallèle avec la Réforme. Alors que l'humanité vivait une Renaissance, l'Église est en train de renaître littéralement. Et le mot serait mieux traduit ce matin par « Renaissance » et qui nous a fait renaître, régénérer. On doit admettre que nous sommes ce que nous sommes. Moi, je viens au monde, là. Bon, aujourd'hui, on essaie fort avec des chirurgies plastiques de modifier l'apparence physique, mais fondamentalement, je suis ce que je suis. Quand je suis né, là, il y avait un code génétique d'imprégné en moi, puis ça allait pas mal dicter ce que j'allais être physiologiquement parlant. Mais Dieu, en Jésus-Christ, me fait renaître. C'est une renaissance, une recréation. Enfin. Je renais à la vie, la véritable vie, et c'est ce qui m'amène à vivre et à découvrir cette nouvelle vocation qui me conduit directement sur le chemin du bonheur, ici même sur la terre. Qui vous a régénéré, verset 3, qui nous a régénéré pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Tourne avec moi dans Ézéchiel 36. J'aime beaucoup la nation d'Israël. Je respecte cette nation puisque c'est le peuple ethnique de Dieu. Israël a de grandes promesses. Peu importe votre position eschatologique, on doit dire qu'Israël est un peuple chéri. Malgré tout ce qu'ils traversent, tout ce qu'ils vivent, malgré leurs erreurs, leurs bourdes majeures, Israël est un peuple à part. Mais j'aimerais vous proposer ce matin qu'Israël était juste l'ombre d'un peuple nouveau. Israël était seulement l'ombre d'un peuple nouveau et nous sommes l'Église, ce peuple nouveau composé de juifs et de non-juifs. Nous sommes le peuple que Dieu désire dans l'époque et dans le monde actuel. L'Église est cette nouvelle nation, le peuple de Dieu. Ézéchiel 36, verset 25. L'alliance mosaïque au mont Horeb, au mont Sinaï, n'était pas suffisante. Ézéchiel 36, 25. Je répandrai sur vous une eau pure. C'est Dieu qui parle à Israël. C'est pas suffisant, Israël. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Lorsqu'un juif lisait cette prophétie, le sentiment qui devait venir dans son cœur, s'il y avait la crainte et l'amour pour Dieu, c'était « J'ai hâte de vivre ça, Seigneur, je suis pris avec moi-même. » Mon cœur est dur, sclérosé, bien endurci. J'ai hâte que tu opères cette transplantation cardiaque spirituelle. Et j'espère que vous avez discerné dans ces versets-là la nouvelle alliance. Ce que Jésus est venu faire, un esprit nouveau qui fait en sorte qu'on suit de façon intrinsèque une motivation qui vient de l'intérieur pour suivre Dieu. Les jeunes qui vont à l'école, qui ont encore des devoirs, t'as deux options le soir quand t'es à la maison pour faire tes devoirs ou pour étudier. De le faire parce que t'es motivé intérieurement, tu comprends le bien fondé, tu sais à quoi ça sert les devoirs, les leçons, puis tu dis, je m'engage là-dedans. Celui qui va en bénéficier le plus, c'est moi, l'étudiant, l'élève. Ou t'as le choix de prendre le chemin plus difficile, puis de te faire toujours contraindre par tes professeurs qui vont te punir si tu le fais pas, tes parents qui vont te chicaner si tu fais pas tes devoirs. Tu as le choix, tu as toujours le choix. Eh bien, la nouvelle alliance, c'est exactement la même chose. Israël était contraint de l'extérieur à suivre Dieu. Dieu appelait leur cœur, évidemment. Il parlait d'une circoncision physique qui était juste un symbole d'une circoncision spirituelle. Mais Israël avait comme une pression extérieure. Si tu obéis, tu vas être béni. Si tu obéis pas, tu vas être maudit, tu vas être puni. Bien, c'est toujours comme ça. Mais Dieu a dit, je vais venir faire quelque chose de plus grand encore. Je vais venir opérer une chirurgie, une transplantation spirituelle cardiaque. Et je vais mettre dans votre cœur un cœur Israël. Et le grand mystère de l'Église, c'est que cette possibilité-là est ouverte aux nations. Et ce matin, on célèbre cette chirurgie, cette transplantation spirituelle cardiaque ensemble. Ce matin, vous êtes venus à l'Église parce que ça vous tentait. C'est vrai? Les enfants, peut-être vous dites non, ben peut-être c'est le temps que ça change. C'est peut-être le temps que Dieu vienne opérer une chirurgie, une transplantation cardiaque dans ton cœur. On est des malades mentales, les chrétiens évangéliques au Québec. On n'est même pas 1% à se lever le matin comme ça. Hey, on pourrait dormir, aller bruncher à 10 heures. Là, c'est pas encore le temps, mais faire notre pelouse, le culte de la pelouse le dimanche matin. Hein? On pourrait aller adorer Tim Horton, tu sais, pendant une heure ou deux, placoter avec des amis. Mais on décide de venir ici, puis plusieurs d'entre vous, ce matin, quand le panier passait, vous avez donné plusieurs centaines de dollars. Pour d'autres, vous avez donné peut-être moins, mais de votre nécessaire. On est malades. On est vraiment des malades mentales. On est vraiment marginal. On est marginal. J'ose croire que tu l'as fait de bon cœur ce matin, puis ça, c'est parce que tu as un cœur nouveau. Tu as un cœur qui désire ces choses-là. Quand tu fais ton chèque d'offrande ou tu mets l'argent dans l'enveloppe, tu te ressens d'allégresse. Tu dis « Wow! » Mais en même temps, un petit pincement, tu dis « J'aimerais ça donner plus pour l'œuvre de Dieu. » C'est vrai? Un cœur nouveau, un nouveau peuple dont Dieu est l'initiateur. On revient à 1 Pierre, s'il vous plaît. Verset 3 à verset 4. Je vais recommencer à 3 pour suivre le texte. Béni soit Dieu, 1 Pierre 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, gang de malades. Vous croyez en lui sans le voir, bande de fous. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Notre espérance, notre attente, notre façon de concevoir l'avenir est radicalement opposée à la perspective que le monde a. Dieu nous a appelés à un nouvel avenir. Et ma compréhension de cet avenir vient influencer toute mon expérience quotidienne. Ici, Pierre est en train de me dire, même si tu es dans la misère, même si tu es en prison pour ta foi, même si ta tête est mise à prix à cause de ta foi en Jésus, ben sache que tu as un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Peut-être tes parents t'ont déshérité quand tu es devenu chrétien. Peut-être que tu as perdu un emploi très rémunérateur, mais tellement vicieux. Tu as abandonné ça, tu as dit « je veux marcher avec Jésus ». Peut-être que dans ton entreprise, tu choisis de toujours facturer tes clients. Puis tu fais moins d'argent que ton compétiteur, parce qu'il fait des meilleurs prix. Mais ici, sache que le Seigneur dit, si tu marches avec intégrité dans mes voies, tu as un héritage au ciel, incorruptible. Ton compétiteur, il fait de l'argent sale. Et l'argent est sale, soyons honnêtes, l'argent dans ce monde est sale. Mais nous, on a un héritage incorruptible. Peu importe mon état financier, j'ai quelque chose d'incorruptible qui m'attend au ciel, un héritage incorruptible. Et ça dépasse largement ce qu'on peut s'imaginer comme héritage. Et j'aime dans le verset 6, lorsque Pierre dit, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Et je crois qu'un des grands maux du christianisme contemporain nord-américain, c'est l'inconfort. Notre société est constamment en train de nous lancer ce message, « Cherche le confort. » T'aimes plus ton boss? Envoie-le promener. Va sur Jobboom. Je sais pas si ça existe encore. Cherche-toi un autre job. Ta femme, t'es tannée, claire-la. Tes enfants, claire-les. Ton église, claire-la. Ton pasteur, claire-les. L'inconfort. On constamment pollué par cette idée de chercher le confort terrestre, constamment pollué dans notre tête. Et je peux vous dire que ça nous fait détourner sérieusement notre vocation. Et la manufacture spirituelle à bas de l'aile. Et j'aime ce que Pierre dit ici. Pierre dit, il parle à des chrétiens qui souffraient pour leur foi, là, ici. Okay? Ils souffraient pour leur foi, pas parce qu'ils s'étaient trop endettés. Ils souffraient pour leur foi. Et il dit, savez-vous quoi? Il le faut. Pour un peu de temps, Dieu veut que vous soyez éprouvés par diverses épreuves. Et quelle est la bonne perspective? Verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, qui cependant est périssable. Mon frère, ma sœur, ce qu'il y a en toi ce matin, ta foi en Jésus vaut plus que des trilliards de dollars. Je te garantis que Bill Gates, Warren Buffett, s'ils ne se repentent pas, avant que Dieu les appelle à lui, là, ils vont mourir avec leurs milliards. Ils vont brûler pour l'éternité en enfer. Alors, j'aimerais te rappeler ce matin, puis t'encourager à dire que la foi qui habite en toi, comme Paul dit à Timothée, ça vaut plus que des trilliards de dollars. Le matin, quand tu te lèves, même si tu es malade, même si tes finances ne vont pas tellement bien, tu peux avoir un gros sourire dans le visage parce que ton cœur est en tressaillement d'allégresse. J'ai la foi en Jésus. Qu'est-ce que je peux demander de plus? T'es célibataire, t'es tanné. T'as Jésus. Ma femme, je l'aime. À un moment donné, on sera plus ensemble au ciel, ça sera plus ma femme. Les autres gars, faites attention comment vous allez la regarder, par exemple. OK, faites attention. Parce qu'il y a une connexion spéciale entre nous deux, même si ça sera plus ma femme, mais... Toutes ces choses-là vont être détruites. Ma foi en Jésus, ma foi en Jésus est ce qu'il y a de plus précieux. Et si tu veux expérimenter et vivre ta vocation, bien, il faut que tu aies ça en tête. Il faut que tu dises, garde l'épreuve, là, c'est juste des opportunités que Dieu utilise dans ma vie pour purifier et valoriser ma foi. Je ne sais pas si je l'ai déjà partagé ici, mais quand on prend un morceau d'or puis qu'on le passe dans le feu, là, si lorsqu'on l'a pesé avant qu'il passe dans le feu, le morceau d'or conserve presque le même poids lorsqu'il a été refroidi, ça veut dire quoi ça? L'or était pas mal pur. Et le monde et Satan et les anges nous regardent quand on passe des épreuves puis ils nous disent « Quel genre de foi as-tu? » Et par la grâce de Dieu, on passe au travers, des fois un peu difficilement, mais on n'a pas renié Jésus, on sort du fourneau, un peu remodelé. On n'a pas renié la foi. Et si on sort de là avec beaucoup de joie et d'allégresse, mon ami, Satan, il a perdu sa gageure, pas à peu près. Le monde, ils sont stupéfaits. Tu n'as pas renié Dieu. Tu n'as pas renié Dieu dans ton épreuve. C'était le pari que Satan avait pris avec Job. Hein? Il va te maudire en face. Voyons les épreuves comme des temps de purifier et pour valoriser notre foi. Quand dans l'épreuve, je continue à bénir le Seigneur, je continue à être fidèle à l'Église, je continue à servir Dieu, à donner, à me donner moi-même, Je suis en train de glorifier Dieu, de montrer la valeur de ma foi. Et qui est glorifié? C'est Dieu. Ultimement, Dieu est glorifié. J'avance là. Verset 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Bande de fous! Mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leurs regards. Ce peuple nouveau appartient au Seigneur en vertu d'une nouvelle alliance. Les prophètes de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, ont parlé de cette nouvelle alliance. Ils ont parlé de l'Évangile. Ils ont parlé de Christ, mais c'était encore flou, nébuleux. Ils ne comprenaient pas tout. Puis ils se disaient, « Oh, on espère qu'on va goûter ce moment, comme Siméon, je crois, puis Anne qui attendait la venue du Messie. » Mais ici, le Seigneur nous dit qu'il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux. C'était pas pour eux, mais pour vous qui croyez. Ceux qui croient dans l'Évangile prêché par les apôtres de Christ, les messagers, les envoyés de Christ. Et Pierre ajoute, les anges sont captivés par nous autres, captivés par l'Église, cette manufacture spirituelle. Il n'y a plus d'image. Tu sais, elle n'est pas belle vraiment sa photo. Une manufacture, souvent de la boucane, c'est poussiéreux, là. Mais malgré cette apparence, les anges sont là puis ils désirent plonger leur regard. Nous, on est fascinés par le monde angélique, hein? Le monde séculier, là, il y en a qui trippent là-dessus, nouvel âge, les anges gardiens. Puis, mais laissez-moi vous dire que les anges qui les fascinent maintenant même, c'est de voir un Joe Blow comme moi un matin qui parle de Jésus, de voir ces 200, 300 personnes réunies qui sont venues ici, qui se sont levées de bonne heure puis qui sont venues entendre parler de Dieu, adorer Dieu, donner de l'argent, donner du temps. Les anges regardent en nous puis ils sont fascinés. Une nouvelle alliance. Et je dirais plus qu'une alliance bonifiée, littéralement une nouvelle alliance. Et je ne sais pas si des fois, quand tu lis l'Ancien Testament, tu sais, ça aurait été le fun d'être là, tu sais, à Horeb, ou comme je pense Yannick disait ce matin, de passer la mer Rouge, tu sais, avec les murs d'océan, voir les poissons passer. Ça aurait dû être une expérience vraiment unique, incroyable, mémorable. Mais laisse-moi dire que les anges sont encore plus impressionnés par ce qui se passe ce matin et dans ta vie de tous les jours. Eux sont plus impressionnés par ça, de voir un cœur qui aime Dieu de façon intrinsèque, une motivation qui vient de l'intérieur. Pas une religion, pas une pratique religieuse, un amour profond pour Dieu. Je vais passer par-dessus les versets 13 à 25 de l'autre partie, juste vous dire rapidement les éléments que j'aurais aimé partager avec vous. C'était mon deuxième point, une vie nouvelle. Et je vais peut-être me référer à quelques versets rapidement. Dieu s'est constitué un peuple nouveau. Le peuple de Dieu, c'est nous, frères et sœurs. Et Dieu nous appelle à une vie nouvelle, une vie qui est marquée par la sainteté. Et la sainteté, peut-être que si tu es jeune, tu as une image comme un peu négative de ça. Tu imagines quelqu'un qui fait rien, qui a une vie plate, une vie monotone, il fait aucune activité. C'est pas ça, la sainteté. La sainteté, c'est oui de te préserver du mal, qui de toute manière te détruit. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà pris de la drogue, ne levez pas vos mains, là. Peut-être qu'aux yeux de tes amis, quand tu l'as pris, ça avait l'air vraiment hot. Les vieux des années 70, vous avez essayé ça peut-être. Puis, mais honnêtement, là, quand on fait une petite réflexion, ça ne prend pas la tête à Papineau après pour réaliser qu'on ne se faisait pas grand bien. Vous êtes d'accord? Matérialisme, poursuite effrénée des biens matériels. On a peut-être déjà été là-dedans à cause du mouvement contemporain de notre société. On tombe dans le matérialisme. On veut absolument la nouvelle bébelle, la nouvelle maison, la plus grosse maison, le plus gros véhicule. En bout de ligne, quand on l'a, après un petit bout de temps, c'est wow, c'était juste ça. C'est vrai? Alors, la sainteté, c'est juste d'enlever ce qui va te rendre malheureux dans ta vie. Aujourd'hui, la cigarette, ça passe mieux comme exemple, là, mais la plupart des jeunes, aujourd'hui, la plupart ne sont pas intéressés de fumer. Ils savent, regarde, il n'y a absolument rien de positif là-dedans, à part que tu as l'air tough. Tu sais, puis est-ce que c'est un avantage, j'en doute. Mais la sainteté, c'est d'être purifié et surtout d'être consacré au service de Dieu. C'est d'avoir une raison de vivre. C'est d'avoir un sens à ma vie. C'est ça, la sainteté. C'est d'être purifié et consacré au service de Dieu. La vie nouvelle à laquelle Dieu nous a appelés, frères et sœurs, et si tu n'es pas encore en Jésus, Dieu t'appelle à vivre une vie qui a un vrai sens, une véritable vocation. La deuxième chose que je voulais partager avec vous dans les versets 17 à 21, c'est une vie rachetée par Dieu lui-même. Et frères et sœurs, c'est vraiment la pierre de touche. On ne doit jamais, jamais perdre de vue. Et toute notre foi va reposer, toute notre expérience chrétienne va reposer sur ce souvenir qu'on a été racheté, pas par de l'or et de l'argent, mais par le sang précieux de Christ. Et je vais y venir un peu plus tard dans l'autre partie. Et finalement, versets 22 à 25, verset 22, « Ayant purifié vos âmes par l'obéissance, » je vais aller dans une autre version, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres. » Je ne sais pas, Yannick, ici à l'Église de l'Espoir, je suis comme peu assez impliqué depuis des années, là. Mais je peux vous dire qu'à l'Église de la Rivière, les gens s'aiment. Mais il y a des fois où je vois que les gens ne s'aiment pas vraiment. Ça arrive des fois, deux frères, deux sœurs qui ne s'aiment pas vraiment. C'est laid. Ils sont tellement malheureux. Et ici, Pierre nous décrit la conversion, c'est vraiment incroyable, il décrit la conversion comme un désir d'avoir des relations authentiques. Verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. » Quand tu t'es converti au Seigneur, tu voulais vivre quelque chose d'authentique. Premièrement avec Dieu, et tu étais tanné des relations superficielles. Tu étais tanné des fausses amitiés, de l'hypocrisie. Tu en avais mal au cœur. Et là, tu as dit, « Oui, je veux des relations sincères maintenant. » Et tous ceux qui se sont convertis ici, il y avait ce soupir-là ou cette aspiration dans ton âme de vivre quelque chose de vrai, n'est-ce pas? Vivre quelque chose d'authentique. Et Pierre dit, puisque c'était votre motivation, aimez-vous ardemment les uns les autres. Et le mot pourrait être traduit par de façon intensive, sans borne. C'est comme ça que je l'ai traduit une fois. Aimez-vous sans borne. Sans frontières. Lorsque Pierre a demandé à Jésus combien de fois je dois pardonner à mon prochain, qu'est-ce qu'il a dit? 3 fois? 7 fois? Non? 70 fois, 7 fois. Il est en train de dire, tu pardonnes tout le temps. Et si on allait un peu plus loin dans la lettre 4:10, je pense, Pierre dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Envers les frères et sœurs, il faut absolument qu'on soit galvanisé de l'amour chrétien. Absolument nécessaire. Pour avoir une expérience chrétienne et ecclésiastique authentique. Ce peuple nouveau a une vie nouvelle marquée par la pureté, fondée par le rachat qui vient de Dieu lui-même, du sacrifice que Dieu lui-même a accompli pour nous, et une vie ayant pour valeur fondamentale l'amour ardent. Maintenant, je vous amène avec moi dans le chapitre 2. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute obéissance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Un nouveau culte. Cette manufacture spirituelle, c'est un nouveau culte. Et vous allez voir un peu plus loin dans le texte, Pierre qualifie l'Église du nouveau temple de Dieu, la nouvelle maison de Dieu. Un culte qui est profondément pur dans l'individualité. Et j'ai dit profondément pur. Regardez ce que Pierre énumère. Rejetez donc toute méchanceté. Ça se traduit souvent par des paroles puis des actions, mais ça commence ici. Toute ruse. Souvent, la ruse, c'est dur à discerner par définition, c'est vrai? C'est vraiment subtil. Toute dissimulation, l'envie et toute médisance. Recherche la sainteté dans le plus profond de ton être. Tu veux offrir un culte authentique à Dieu? Fais pas comme les pharisiens qui avaient l'air d'un beau sépulcre blanchi de l'extérieur, mais qui était un paquet d'os à l'intérieur. Ça sentait, ça puait la putréfaction spirituellement dans leur vie. Alors Pierre dit, garde, soyez pas comme les pharisiens, mais ayez un intérieur, l'intérieur de la coupe, assurez-vous qu'il est pur. L'extérieur, c'est moins important. Et désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. Un culte nouveau qui est fondé sur la poursuite de la croissance spirituelle. Je ne sais pas si tu as abandonné ou si tu as shifté en première depuis un bout de temps sur la croissance spirituelle. Et je sais qu'ici, à l'Église de l'Espoir, comme beaucoup d'églises, il y a un désir de contribuer à la formation spirituelle des membres. Et ici, Pierre est en train de dire, tu dois désirer cette croissance spirituelle. Et ce que Dieu met dans ta vie, dans ton église, en place pour favoriser cette croissance, eh bien, tu dois y sauter à pieds joints. Un enfant nouveau-né, là, qui a fait, on le sait tout, l'image est forte, là, il veut le sein ou le biberon. Il veut. Il crie, tout le temps. Est-ce que j'ai encore cette passion en moi pour la croissance spirituelle où j'ai shifté en première ou en deuxième depuis longtemps? Est-ce que tu es à fond de train, un désir ardent de devenir un homme, une femme de Dieu? Et je dois vous dire ce matin que des fois, je parle avec des frères et sœurs, je me dis, même à Rivière-du-Loup, je dis, je souhaite ardemment que les chrétiens, que ça fait 25-30 ans qu'ils sont au Seigneur, soient vraiment des piliers spirituels. Et malheureusement, des fois, ces chrétiens de 30 ans d'expérience sont vraiment un problème plus qu'un pilier. C'est eux qui devraient être là en train de former les flambants neufs puis que le pasteur ne court pas comme un malade pour essayer de former tout le monde. Alors, est-ce que depuis 25-30 ans de vie spirituelle, tu as shifté en première? Ou tu es encore dans cette quête, ce désir? Tu viens voir les anciens, les pasteurs, tu fais des cours, tu dis, je veux grandir spirituellement. C'est une poursuite effrénée, une saine passion dans ma vie. Je veux devenir un homme, une femme de Dieu. Et qu'Alexandre qui coordonne la fusion, puis les autres, Danny, Yannick, toutes les autres. Je suis obligé de dire des fois, hey, l'Église, juste slacker un peu quand il y a un nouveau qui arrive. Tu sais, comme sauter pas dessus comme des requins affamés, puis de juste coordonner un peu. Il y en a trois qui veulent former le nouveau chrétien. De dire, écoute, garde un peu d'énergie, il y en a d'autres qui vont venir. Alex, il est où, Alex? T'aimerais-tu ça, dire ça, Alex? Amen! Amen. je connais l'Église, il y a même plusieurs chrétiens de 20-30 ans d'expérience. S'il vous plaît, passez en cinquième. Si vous n'êtes pas en cinquième, passez en cinquième. Poursuivez la croissance spirituelle. Et moi, j'ai dit aux gens, si quelque chose, si ce que je désire que les gens retiennent de moi, peut-être l'épitaphe qui sera là avec mon là où je serai enterré, j'espère que ça va être comme Hugo, une poursuite effrénée de la sanctification. Voici le résumé de sa vie, une poursuite effrénée de la sanctification. J'espère qu'on va pouvoir dire ça. Quand je vais être vieux, on a toute une gang de vieux, il y en a qui vont avoir déjà la présence du Seigneur. Peut-être c'est Yannick qui va célébrer mes funérailles, qui va dire « Hugo, il était maladroit des fois. » Des fois, il était un petit peu... Ah. Mais une chose qu'on peut lui donner, c'est qu'il y avait cette poursuite sans frein de la sanctification, de vivre intensément et passionnément pour Christ. J'espère que tu vas pouvoir dire ça, si ce n'est pas moi qui t'enterre avant. Mais est-ce que sur ta pierre tombale, on va pouvoir lire un obsédé de la sanctification? Absolument buzzé pour la sanctification chrétienne. Un homme et une femme, tu as le goût de le suivre. Il est dur à suivre même. Il est dur à suivre. Je vous encourage, frères et sœurs, à shifter en cinquième si vous êtes en bas de la cinquième. Poursuivez, désirez. Comme des enfants nouveau-nés. Même si tu es un chrétien de 30 ans, c'est bien d'être comme un bébé et de désirer la croissance. Et Pierre ajoute, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, son argument marteau, c'est si tu as goûté que Christ est bon, mais continue à chercher à le savourer, à te délecter de sa personne parfaite et merveilleuse. Son argument marteau, c'est pas ce que je viens de dire, là. C'est si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si tu t'es converti au Seigneur, c'est sûr que tu as goûté que Christ est bon. Ça me fait toujours drôle de lire ça, que ça vient de Pierre, un gars, tu sais, les mains maganées, un pêcheur. Oh, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, ça me fait drôle. Mais quand même, un homme sanctifié, il avait goûté dans Jean 21, lorsque Jésus a dit, Pierre, m'aimes-tu? Oui, paie mes brebis. Il a goûté que le Seigneur est vraiment bon. Et si tu as goûté que le Seigneur est bon, voici le fondement qui doit constamment te propulser de l'avant pour chercher la croissance spirituelle. Verset 4, « Approchez-vous de lui, pierre vivante. » Et là, la description absolument merveilleuse. « Rejetée par les hommes, mais vous et précieuse, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Wow, quelle image! Voici notre vocation, frères et sœurs. Approchez-vous de Jésus, pierre vivante. Quel paradoxe, une pierre, ça ne vit pas. Mais Jésus est la pierre vivante, la pierre angulaire sur laquelle on fonde notre vie, ce Seigneur qui est bon. Et Pierre ajoute, vous-même, édifiez-vous. Ayez cette passion dans vos rencontres, dans votre vie corporative, votre vie d'église, de vous édifier pour faire quoi? Offrir des victimes spirituel, agréable à Dieu. C'est quoi ces victimes spirituelles? On va pogner un non-chrétien qui rentre ici, on va l'immoler sur l'estrade, c'est ça? Non. C'est lorsque ma vie est une offrande à Dieu, Romains 12, 1 et 2. C'est lorsqu'on va chercher les perdus au cégep, dans la rue, au travail, dans notre famille, ceux qui sont sans Christ, et qu'on les emmène finalement par la grâce de Dieu à Jésus, puis qu'on dit, Seigneur, regarde, un nouveau! Une nouvelle offrande spirituelle. Et lorsque Dieu vous donne le privilège d'en faire rentrer un là-bas, s'il vous plaît, aimons les étrangers. Ouais, mais il n'est pas chrétien, j'aime pas son look, tu sais, il va m'influencer. Non! Aimez les étrangers. Dans la Bible, si on allait plus loin dans le chapitre 4, le mot hospitalité, c'est philo-xénos. Philo aimé, xénos, xénophobie, hein? Un xénophobe, c'est quelqu'un qui n'aime pas tout ce qui est différent de lui. Ben, l'hospitalité dans le grec, c'est d'aimer l'étranger. Alors, j'espère qu'à l'église de l'Espoir ici, comme j'espère qu'à l'église de la Rivière, quand il y a un étranger, un bizarre non-chrétien qui rentre ici, on est amoureux de cet homme-là, de cette femme-là, dans la communauté, au travail. Et vous savez qu'est-ce qui va se passer? On va présenter à Dieu des victimes spirituelles agréables à Dieu. Et Dieu va être tellement content. Et vous savez quoi? Je termine avec ça. On va enfin avoir retrouvé notre vocation et va expérimenter au quotidien notre vocation. J'aimerais te demander ce matin, est-ce que ta vie est orientée vers la formation de disciples? Vers une poursuite personnelle de la sanctification à travers les Écritures. Est-ce que tu vois l'Église vraiment comme le nouveau temple de Dieu duquel tu es une pierre essentielle? Et qu'ensemble, réunis, vous allez offrir à Dieu des victimes spirituelles, vous-même comme étant sanctifiés, mais en présentant des nouvelles personnes. Si l'Église n'est pas passionnée pour les gens sans Christ, ça va vraiment mal parce qu'il n'y a personne d'autre qui va l'être. Si l'Église n'est pas follement amoureuse des étrangers qui rentrent ici, qui sont dans la communauté, si on n'est pas philo-xénos, l'ami des étrangers, oubliez ça. Et savez-vous quoi? On va payer pour. Parce que notre cœur va produire quoi? D'autres idoles. Parce que notre culte ne sera pas offert de façon authentique à Dieu. Alors, on va chercher à meubler nos soirées, nos fins de semaine, notre compte bancaire avec d'autres choses que Jean Calvin appelle des idoles. Ton cœur, si ce n'est pas Dieu qui adore, il va produire d'autres idoles. C'est une manufacture d'idoles, ton cœur, le mien aussi. Alors, si je ne suis pas bien centré dans ma vocation, si je suis une âme adultère, comme dit Augustin, eh bien, le plus malheureux là-dedans, là, c'est toi puis moi. J'aimerais t'inviter ce matin, on va prendre quelques instants de recueillement personnel, et j'aimerais t'inviter à renouveler ton engagement envers Christ. Toutes ces choses que j'ai mentionnées, j'en ai dites beaucoup. Fermons les yeux, s'il vous plaît. Et je t'invite ce matin à passer de la première, deuxième, troisième, quatrième, peu importe, passe en cinquième. Et si tu es sur le reculon, ça va vraiment mal. Je t'invite à réaffirmer dans ton cœur, solennellement devant le Seigneur, la compréhension de ta vocation d'être un membre vital de l'Église de l'Espoir, d'être un participant actif et authentique de cette manufacture spirituelle qui produit des disciples, ce que Pierre appelle des victimes spirituelles agréables à Dieu. En ce matin, c'est peut-être un temps de repentance pour toi. Repens-toi. Repens-toi de ta tiédeur, de ton idolâtrie, de ton adultère spirituel. Confesse au Seigneur ses péchés. Et le Seigneur est tellement bon. Le Seigneur dit, si tu confesses tes péchés, je suis fidèle et juste pour les pardonner. Et Dieu ajouterait probablement, je souhaite juste ça, que tu vives cette vie passionnée pour mon royaume. Tu vas être le premier à en bénéficier. Alors Seigneur, fais cette œuvre de l'Esprit en nous et que l'Église québécoise qui ne reçoit pas encore des roches pour sa foi n'attende pas d'en recevoir pour se réveiller, mais qu'elle vive dès maintenant avec beaucoup de passion, comme un enfant qui désire le sein maternel, qu'on puisse désirer cette croissance et cette vitalité spirituelle dans nos vies, mais en tant que corps, en tant qu'Église. On te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci Hugo. C'est correct si on écrit hyperactif pour Jésus? Hype for Jesus, ce serait bon ça? Hype pour Jésus. Merci Hugo. Je vous invite à considérer sérieusement d'aller aider l'Église de la Rivière cet été. D'accord? Regardez vos agendas, regardez le temps que vous avez à donner pour aller aider. On va vous revenir avec plus d'informations sur ça. On va aller dans la louange ensemble. Je vous demande de vous lever. Je vous rappelle, on attend 10 hommes en avant pour placer la salle, prendre un bon repas ensemble, prendre un bon temps de communion fraternelle.